et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes. Ce n'est pas le dialogue des religions avec Eric Maniakiza, c'est plutôt Yacouba Ouédraogo qui est avec vous. Et c'est pour parler de sport. Et donc, nous parlons de Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. Je salue Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir. Amine, vous m'entendez? Est-ce qu'on a Amine? J'ai salué également Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir. Et donc, on va essayer de retrouver Amdine Si en attendant. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire. Il n'est pas à Kinshasa, il est à Washington. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Comment vous allez?
Très bien. Je devais être au studio, mais ce n'est que partie remise. Je serai là bientôt.
On espère bien. Est-ce qu'on a Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon? Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
Et donc, merci à tous de votre présence. On va essayer de retrouver Amdine Si. Vous le savez, trois sujets au menu de ce soir. La fameuse finale retour de la Ligue des Champions en Afrique. Beaucoup de choses à dire là-dessus. La finale de la Champions League en Europe. Le mondial des moins de 20 ans pour l'année 2019. Et on n'oubliera pas le mondial féminin qui débute le 7 juin en France avec la présence de trois équipes africaines. On commence bien évidemment avec la finale retour de la Ligue africaine des Champions. Après une interruption d'une heure et demie à cause d'une vague défectueuse, la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca n'est pas allé à son terme. On refait le film de tout cela, mené 1-0 sur un but de Belaïli depuis la fin d'une première période pauvre en occasion nette. Le Wydad poussait alors pour égaliser ce qu'il crut avoir fait quand El Karti, bien servi par El Haddad, trompait Jeridi de la tête à la 60e. Est-ce pour un hors-jeu inexistant ou une légère poussette pas évidente en tout cas du tout. Dans la surface, eh bien, toujours est-il que M. Gassama refusa le but. Et je rappelle que cette finale retour a été sifflée par l'international gambien Bakary Gassama, assisté des Sénégalais Djibril Camara et Hadj Samba. Le Zambien Jenissi Kadzoué était à la tête de l'équipe des arbitres à la salle de la VAR, assistance vidéo à l'arbitrage, et cette assistance qui était défectueuse. Alors Amine, on va dire que ce fut une belle partie de foot jusqu'à cette fameuse 62e minute.
Un très beau match qui nous a sorti un peu du contexte extrasportif assez houleux qui avait précédé que ce soit lors de la manche aller ou même lors de ce match retour. Aujourd'hui, les confrontations entre équipes nord-africaines, et notamment lorsqu'il y a un enjeu au bout, comme cette finale, dépassent largement les cadres d'une confrontation simple de football. Et heureusement, pendant les 60 minutes du match, on a eu droit à du beau spectacle avec notamment une domination de l'équipe tunisienne en première mi-temps, domination qui a été, convertie en but par Blaïli à la 40e minute de jeu. Superbe but sur une passe de Benhamed qui avait cassé un peu la ligne défensive du Wydad, une belle frappe de l'international algérien plein lucarne. La réaction du Wydad est arrivée après la pause avec trois occasions nettes de scorer et puis ce but qui a abouti à toutes les polémiques entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Et aujourd'hui, avec un arbitre incontournable, ou plutôt avec un responsable, voire un coupable, la Confédération africaine de football.
Merci bien, Amine Birouk. Alors, l'arbitre Bakary Gassama a annoncé le coup de sifflet final qu'à la 152e minute, dans un chaos total, vous le disiez tout à l'heure, sur la pelouse du stade de Rades, à la suite du refus des joueurs du Wydad Casablanca de reprendre le jeu. Alors, Élisée, on se demande, sur ce coup de sifflet final, l'arbitre Gassama a-t-il agi en conformité avec le règlement?
Oh, on peut dire oui, puisque s'il a pris une telle décision, ça veut dire réellement qu'il a connaissance du règlement. Maintenant que les Marocains refusent de jouer, c'est la question même que je me pose, puisqu'ils avaient toutefois la possibilité de revenir au score. On voit souvent ces genres de choses, hein, intervenir dans un match de football. C'est vrai que, il faut dire, la technologie a aussi, à un moment donné, peut faire défaut. On a vu en France, lors du championnat de la première division de la Ligue 1, où Strasbourg, et voilà, Strasbourg et Monaco, malgré qu'il y a la VAR, eh bien, les Marocains et les Monégas, j'allais dire, excusez-moi, les Monégas se sont vu refuser 2 buts. Donc, toutefois, ils pouvaient poursuivre la partie, même sans la VAR. Les arbitres se sont trompés. On a vu le match aller, même avec la VAR, ce qui s'est passé, ce qui a valu 6 mois de sanction pour l'arbitre égyptien. Donc, quelque part, les Marocains auraient pu poursuivre le jeu dans l'intention d'être fair play, puisque c'est de ça même qu'il s'agit, pourquoi ils ont refusé de jouer. Et on aurait même appris qu'à un moment donné, la CAF a déjà averti les deux clubs que cette machine ne marchait pas. La vérité, on ne sait pas encore, mais les Marocains auraient pu poursuivre le match et auraient pu égaliser. Maintenant, Gassama a pris une telle décision, c'est sûr qu'il avait déjà connaissance du règlement de la FIFA.
Alors, sur ce point précis, eh bien, le président du club marocain du Wydad donc, a dit que les deux capitaines étaient au courant de la défaillance, disons, de l'assistance vidéo. Il n'allait pas se plaindre jusqu'à ce point. Eh bien, tout reste, bien sûr, à vérifier. Amdine, on va dire quand même, hein, c'est incompréhensible que l'arbitrage vidéo ne puisse pas fonctionner dans un match pareil, surtout au regard de ce qui s'est passé au match aller. Il fallait prendre des dispositions.
Tout à fait, parce que c'est une décision à deux mesures. On ne comprend pas. Parce que quand le Wydad a accueilli quand même l'équipe d'expérience, il y avait quand même la VAR, et la VAR a été défavorable aux Marocains. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi la VAR n'a pas marché à ce niveau de la compétition. Ça ne peut pas se comprendre. C'est la CAF qui est responsable à 100%. Moi, pour moi, c'est clair, net et précis. Le Wydad Athletic Club ne doit pas perdre ce match. C'est pas normal. Il ne doit pas perdre ce match. Vous l'avez dit, c'est la finale de la honte, une finale subie par tous les observateurs du monde et qui se termine comme ça. C'est grave. Au niveau de la CAF, on doit vraiment remettre les choses à leur place puisque ce qui se passe est anormal. C'est anormal, Yacouba.
C'est anormal. Et donc, le cri de cœur d'Amdine Sy. Et donc, Lava, vous le disiez, fonctionnait au match aller, et juste une semaine après, eh bien, on se retrouve bien sûr dans une situation où l'assistance vidéo ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est la CAF qui est pointée du doigt, même si le comportement aussi des joueurs marocains n'est pas à excuser totalement, dans la mesure où il reste encore 30 minutes à jouer. Maintenant, on va comprendre bien sûr le ras-le-bol, dans la mesure où ces Marocains avaient déjà été victimes d'une injustice arbitrale au match aller. Et donc, l'un dans l'autre, situation confuse totalement. Alors, Thierry, finalement, on se demande si nos officiels sont prêts pour l'utilisation de cette technologie-là. Au match aller, c'était les arbitres, bien sûr, qui ont consulté. L'arbitre égyptien qui a consulté la VAR, qui n'a pas peut-être pris la bonne décision. Cette fois-ci, c'est cette technologie qui est Karma à plat. Est-ce que l'Afrique est prête à utiliser cette fameuse VAR?
C'est la question qu'il faudra poser justement aux dirigeants du football africain qui se sont peut-être trop tôt permis ce luxe qu'est la VAR, qui n'est pas utilisé dans tous les championnats européens. C'est une nouvelle technologie qui est expérimentée. Il est vrai qu'elle a aidé, on ne va pas l'exclure, mais je ne comprends pas comment une technologie si importante, mes confrères l'ont rappelé, au vu de ce qui s'est passé lors du premier acte de cette double confrontation, décisive pour le titre final de la plus grande des compétitions des clubs sur le continent, que le monde entier suivait, que cette technologie ait eu des problèmes et que les protagonistes n'aient pas été avertis à temps. Ce spectacle est malheureux, hein, vraiment malheureux. C'est une honte pour le continent. Hein. J'ai vu tous les titres des tabloïds revenir là-dessus. C'est une honte, ça déshonore l'Afrique, ça déshonore la Confédération africaine de football. Moi, je pense qu'il fallait absolument, il faut absolument tirer cette histoire au clair. Il faut absolument que la CAF arrête de déshonorer de cette manière-là le football continental, que ces nouveaux dirigeants de la Confédération africaine de football fassent preuve de beaucoup plus de maturité, de beaucoup plus de sérieux dans l'organisation de ces genres d'événements pour que le continent qui présente pourtant un talent fou en matière de football ne puisse plus souffrir de l'organisation dans pareilles circonstances. Je reviens au comportement que vous déploriez tout à l'heure des joueurs du Wydad. Il est vrai qu'on peut comprendre leur frustration, mais sortir du match, refuser de jouer alors qu'il restait une bonne demi-heure et que tout pouvait se passer parce que c'est une finale, ce n'est pas bien. Mais j'évoque également, parlant des espérances sportives de Tunis, cette finale entachée de nombreuses irrégularités, comme déjà l'année dernière. Hein. Rappelez-vous, en demi-finale contre le Primeiro de Agosto d'Angola, ce but inscrit par Bobo Ougenda, l'international congolais, qui était largement valable et qui a été refusé. Et là, c'est une finale retour qu'il joue à domicile. Un nouveau but des Marocains qui est refusé alors qu'il était valable. Bref, c'est vraiment déplorable pour l'Afrique et il faudra absolument revoir cette situation. Et surtout, à quelques jours du début de la CAN, ça ne fait pas plaisir aux passionnés du football que nous sommes.
Merci bien Thierry Kamboundi. Alors Jules, les prédécesseurs ont évoqué beaucoup de choses sur cette question de l'AVA. Alors on a vu ce qui s'est passé au match aller, cette technologie fonctionnait. Malgré cela, l'arbitre égyptien a commis des erreurs. Au match retour, la technologie était défectueuse et donc pas de VAR. Encore des erreurs, finalement on ne sait pas où mettre la tête.
Oui, mais je crois que tout se passe comme si la nouvelle direction de la CAF se sentait redevable quelque part. Dès que un match se joue dans tel ou tel autre pays, il y a beaucoup de fébrilité. On a parlé tout à l'heure des matchs joués dans le nord de l'Afrique, mais les matchs se jouaient aussi dans le nord de l'Afrique avant, mais les situations étaient bien maîtrisées. Mais là, on commence à se demander si. Et d'un côté, nous avons des actions, des déclarations qui montrent que le football africain est en train de progresser. La communication est formidable, comme l'ouverture de la CAN. Et de l'autre, on fait des bévues sur des actions de jeu réellement sportives. On se rappelle encore de la reprise du match Sénégal-Afrique du Sud à cause d'un fait de match. Ça ne s'est passé nulle part. C'est un précédent grave. Et voilà maintenant des joueurs qui abandonnent le terrain. On n'avait jamais vu cela. Donc il faut vraiment être très ferme et je crois, et un de ces jours, organiser une finale sur terrain neutre ou à huis clos pour un peu ramener les gens dans l'ordre.
Alors justement, organiser une finale sur terrain neutre ou à huis clos, est-ce que la CAF ne gagnerait pas, Élisée, je m'adresse à vous, est-ce que la CAF ne gagnerait pas, c'est vrai, ça va poser le problème bien sûr des supporters au stade, mais est-ce que la Confédération africaine de football ne gagnerait pas à désigner déjà à l'avance le pays hôte de la finale comme ça se fait ailleurs?
Oui, suite à cette situation, c'est le moment à jamais pour que la CAN change cette formule, c'est de jouer la finale sur un seul match, dans un pays neutre. On peut déjà choisir, par exemple, n'importe quel pays en Afrique, même si le club de ce pays se qualifiait pour la finale. Ça veut dire que ça l'arrange. On le voit un peu partout en Europe. Et si l'Atlético s'était qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, eh bien, le club jouera à domicile pratiquement contre un club anglais. Donc, c'est dire qu'il est temps pour que la CAF songe, mais réellement, à faire jouer la finale de la Ligue des Champions sur un stade neutre. Et tout ceci pourra maintenant éviter de voir ces genres de situations parce que. Ça n'en a pas à l'Afrique. Et il faut le dire, à quelques jours de cette finale, l'Espérance même a écrit à la CAF pour lui dire qu'elle ne souhaiterait pas que Gassama ni Sikazoué soient mis sur le match. Résultat, ces deux arbitres ont été retenus et voilà ce qui s'est passé finalement.
Sauf que cette fois-ci, c'est en faveur, bien sûr, de l'Espérance. Alors, la Fédération royale marocaine a même indiqué qu'elle a décidé de saisir la FIFA ainsi que le tribunal arbitral du sport. Amine, où en est le Wydad avec cette affaire?
Déjà pour vous situer la situation, vous situer les choses, il faudrait juste rappeler quelques faits. Déjà, une réunion technique qui a précédé le match où on avait indiqué qu'il y aurait la VAR. Les arbitres VAR étaient désignés. Normalement, il y a un PV que les deux équipes ont reçu de la part du commissaire du match après la réunion. Un deuxième document, c'est celui de la société qui fournit le VAR, qui est avalisé par la FIFA et par la CAF, qui indique qu'une pièce de du VAR ou de la VAR n'est jamais arrivée à Tunis. Il s'agirait d'une télécommande, donc ce n'est pas un matériel défectueux, c'est un matériel qui n'est jamais arrivé à bon port. Troisième chose, d'après le capitaine de l'équipe d'Espérance de Tunis, l'arbitre a prévenu les deux capitaines peu avant le coup d'envoi qu'il n'y aurait pas de VAR. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer? C'est la version des Tunisiens, la version marocaine est différente. Ensuite, le fait que le Wydad ait quitté le terrain, d'après le président du Wydad, l'équipe n'a jamais refusé de reprendre le match, mais elle voulait le reprendre dans les conditions qui étaient stipulées lors de la réunion d'avant-match, c'est-à-dire avec un VAR performant, de façon à pouvoir reprendre à partir du visionnage de l'action du but. Et puis, il va falloir quand même combattre un phénomène encore plus récurrent, c'est le phénomène de la corruption, le phénomène de la manipulation de l'arbitrage au sein de la Confédération africaine de football. Une commission d'arbitrage qui a été pendant très longtemps squattée par le représentant tunisien, qui était président de cette commission, qui est depuis lors président de la commission interclub. Et visiblement, il y a plusieurs éléments concordants qui indiquent que l'équipe du Wydad de Casablanca va se défendre en fonction de ces éléments, et en fonction du rapport du commissaire du match que nous attendons, du rapport de l'arbitre de la rencontre et du rapport d'Ahmed Ahmed. Autre élément à prendre en compte, la présence de quatre corps étrangers pendant le match. Au moment de l'interruption, il y a eu descente sur le terrain du président de la CAF, des deux présidents de club et du président de la commission interclub, qui n'avaient rien à faire là-bas. Ensuite, par rapport à la décision d'arrêter la rencontre et de donner l'Espérance de Tunis gagnante, il va falloir quand même homologuer par la commission responsable ce résultat, il y avait l'obligation que le commissaire du match puisse convoquer avec l'arbitre le capitaine du Wydad de Casablanca pour leur indiquer à deux ou trois reprises est-ce que vous êtes d'accord pour reprendre le match ou pas. Et c'est en fonction de la décision du capitaine de l'équipe en disant on ne reprend pas le match que le commissaire du match et l'arbitre doivent notifier la fin de la rencontre et désigner l'équipe de l'Espérance de Tunis gagnante. Tous ces éléments ne sont pas très clairs, on est dans l'ambiguïté, on est dans le juridisme, on va être obligé d'aller, de changer ou de troquer les shorts, les tenues de football, par rapport à les troquer, les remplacer par des éléments juridiques, par la défense devant les prétoires. Il y aura déjà une première défense demain à 9h GMT à Paris à l'occasion de la réunion du comité d'urgence qui va devoir prendre des décisions, qu'il va falloir faire valider par le comité exécutif. Nous partons vers deux, trois alternatives. Primo, homologuer le résultat du match, possibilité. Secondo, de fait, sanctionner le Wydad, qui risquerait alors entre deux et trois années de suspension, plus de lourdes amendes. Soit faire rejouer le match, mais où? À Tunis ou sur terrain neutre. Donc le combat est très long et ce sera une question de lobbying, également une question d'argument juridique. Le Wydad a ses arguments, l'Espérance a les siens, et au milieu, il y a une CAF défaillante et responsable.
Vivement donc que ce soit beaucoup plus à une question d'arguments juridiques, afin que tout cela soit clair. Vous suivez Sporama, suivez Ouafrique, l'émission revient tout de suite. On parle toujours de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci en Europe. C'était aussi la finale samedi dernier. Liverpool et ses Africains sont sacrés champions d'Europe. Sadio Mané, Mohamed Salah, Joël Matip étaient tous titulaires. En finale, hein, face à Tottenham, Naby Keita, le milieu de terrain guinéen, est blessé, hein, a assisté à la victoire 2-0 des siens. Face aux Spurs, c'est le sixième trophée, hein, pour les Reds dans cette compétition. Amdine, Liverpool n'a pas eu à forcer quand même, hein, son talent. Wanda Metropolitano de Madrid et ses Africains ont une fois de plus fait parler d'eux.
Tout à fait, vous avez raison, mais il faut comprendre que quand on marque un but dès la première minute pour une finale comme ça, peut-être que cela a un peu d'éteint quand même sur le comportement des Reds de Liverpool, mais l'essentiel a été fait. Il fallait quand même remporter cette finale de la plus prestigieuse compétition européenne que Liverpool avait perdu l'année dernière face au Real de Madrid, et ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont bien négocié. Car quand ils ont mené par 1-0, ils ont attendu l'adversaire. Heureusement, Origi a marqué le deuxième but lors de la fin et cela a été bénéfique pour ces hommes de Jurgen Klopp qui a bien mélangé cette équipe. C'est une victoire pour l'Afrique car on a vu les deux ambassadeurs puisque Naby Keita n'était pas sur le terrain, mais on a vu un bon comportement de Sadio Mané qui a quand même été à l'origine du penalty et de Salah qui a marqué et qui a réussi à inscrire ce penalty. Grosso modo, je dirais que cette victoire de Liverpool est une victoire africaine puisque ça a été salué par tout le continent africain. Maintenant, on se tourne vers la CAN pour voir, puisque le débat sur le Ballon d'Or est ouvert, pour voir comment va se terminer le mollo à mollo entre Sadio Mané et Salah.
Alors, Jules, on va dire, les Reds avaient fait le plus difficile en renversant le Barça en demi-finale.
Oui, bien sûr. C'était la finale avant la lettre. Et ils ont fait la différence, justement, surtout depuis qu'ils ont récupéré toute leur défense dès la deuxième partie de la compétition. L'année passée, ils avaient été trahis par leur gardien. Ils ont recruté un très bon gardien. Et ils ont été trahis aussi par la blessure de Matip, qui joue souvent un rôle important aux côtés du feu follet hollandais Van Dijk. Et donc, ils forment une charnière centrale pratiquement imprenable quand elle est en forme. Ça a été le cas avant de servir les feux follets de l'attaque. Donc, il est important de savoir que c'est une équipe équilibrée qui s'était bien préparée, qui avait colmaté ses lacunes et qui finalement a réussi son sprint final.
Alors, Thierry, on dirait que cette victoire est un sacre aussi pour Jürgen Klopp. Désormais, lui aussi, il fait partie de la grande famille des champions d'Europe, lui qui a souffert deux fois en finale.
Ah oui, après avoir échoué en finale contre le Borussia Dortmund, contre le Bayern de Munich, après avoir échoué l'année dernière contre le Real Madrid, il était temps pour Jürgen Klopp de remporter enfin ce trophée. Il a fait, il avait la solution. On a vu le parcours de Liverpool qui a été impressionnant cette saison. Il avait une revanche à prendre, il a pris de belles manières. C'est vrai qu'on s'est un tout petit peu ennuyé durant une bonne partie de cette rencontre, mais ils ont fait l'essentiel d'entrée de jeu sur ce penalty converti par Mohamed Salah, même s'il a fait l'objet de quelques critiques. Et ce but d'Origi, le Belge d'origine kényan, qui fait partie des Africains qui ont brillé également, et en demi-finale contre le Barça, et en finale avec ce but du break qu'il a marqué. Donc bref, Jürgen Klopp a fait un travail merveilleux. Il a manqué de très peu seulement de remporter la première ligue face à Pep Guardiola et son Manchester City. Et là, il s'est rattrapé de très très belle manière après deux finales perdues en remportant et en sauvant surtout la saison de cette très très belle formation de Liverpool, cette belle génération qui est composée surtout de quelques joueurs africains que vous avez évoqués et qui donc fait honneur à ce technicien allemand.
Alors, Amine, très rapidement, le club anglais parachève ainsi, on va dire, une brillante saison, même s'il a terminé deuxième en Première Ligue.
Une brillante saison, et puis c'est surtout la consécration d'une génération, d'un travail de fourni par Jürgen Klopp, qui a su trouver un style de jeu à cette équipe, qui lui a redonné une âme. Ça fait 14 ans que Liverpool n'avait plus gagné la Ligue des Champions. C'est une équipe qui avait besoin de titres, et aujourd'hui, c'est tout un peuple, c'est toute une ville qui vibre pour le triomphe de cette équipe qui a su gagner cette finale, peut-être pas la plus spectaculaire, mais la plus efficace face à une équipe de Tottenham qui a voulu, mais qui n'a jamais pu desserrer l'étau face à cette équipe de Liverpool. Jürgen Klopp est justement récompensé de son travail. Il a façonné brique par brique, pièce par pièce cette équipe, et aujourd'hui, elle dispose de beaux atouts et est capable de continuer sa saga européenne dès la saison prochaine.
Merci bien, Amdine. Sans transition, on va parler de cette Coupe du Monde de moins de 20 ans. Très rapidement, avec vous, Amdine, si l'Afrique est sûre d'une chose, c'est d'avoir un représentant en quart de finale.
Oui, et ça risque d'être le Sénégal, puisqu'on est à la mi-temps et c'est le Sénégal qui mène par 2-0 grâce à un but de Sagna à la 36e et un autre de Ibrahim Niang marqué dans le temps additionnel à la 48e minute exactement. Donc c'est le Sénégal qui mène par 2-0. Donc on aura, c'est vrai, un représentant en quart de finale puisque c'est le huitième de finale et 100% africain. Donc prions pour que ce soit le Sénégal. Mais je vous signale que déjà il y a des qualifiés puisque l'Italie a sorti la Corée qui est le pays hôte, la Colombie a sorti Nouvelle-Zélande. Il y a également l'Ukraine qui a éliminé le Panama et l'Équateur qui élimine l'Uruguay. Donc le Sénégal est bien parti pour se qualifier, Yacouba, puisqu'il mène par 2-0 après une mi-temps.
Et donc après le Sénégal, le Mali, aura sa chance et l'Afrique du Sud est out. Et donc le Nigeria qui est en train d'être mis out par le Sénégal, n'empêche, ce sont toutes des équipes africaines Sporama qui s'achève ici. Nous étions avec Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon, Élisée Mkwatine depuis Boyukon au Bénin, Thierry Kambouni de Top Congo FM ici à Washington, Amdinsi à Dakar, Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc donc. Yacouba Ouédraougo vous a présenté cette émission réalisée par Joselle Morissin. On se retrouve la semaine prochaine.